Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, pétant le feu, le teint vif, et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent. Mou, fripé, dégarni.
CO2, mon amour.
Un quart de pain, s'il vous plaît. Quelle sorte?
Avec de la mie à l'intérieur.
Denis Chesson.
Sésame, sarrasin, blé dur, quatre céréales. Prends un Big Mac et un Coca, connasse.
C'est facile, mais ça marche toujours. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur France Inter dans CO2, mon amour, la nature. Et ça va aussi être l'eau donc qui chuchote à vos oreilles. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec, et assisté de Camille Blanès, c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Et avant de parler d'eau, tenez une petite humeur. Vous aimez la nature, ça tombe bien. La chasse aux lagopèdes et aux tétralyres et autres gallinacées de montagne est à nouveau autorisée dans les Hautes-Alpes. Et nous adorons la formule qui accompagne cette décision. Sous réserve que les taux de reproduction de ces espèces soient favorables en fonction des comptages effectués cet été. Par qui ? Eh bien, par l'Observatoire des Galliformes de Montagne, l'OGM. On ne peut trouver mieux en matière de manipulation. Qui compte les gallinacées, évalue leur population ? Eh bien, les chasseurs, bien sûr. L'OGM. Derrière ce cycle merveilleux se cachent les fédérations de chasse passionnées d'oiseaux qui, curieusement, ne tiennent nullement à s'associer à la LPO pour conjuguer les observations. Et qui, en toute bonne foi, décident que seuls leurs propres chiffres doivent être pris en compte. Juge et partie, mais non, à peine. Les autres comptent aussi, mais pour du beurre. Allons, faisons fi des dérangements hivernaux, du tourisme, du réchauffement climatique qui oblige les volatiles à se réfugier toujours plus haut en altitude jusqu'à la limite des limites. Alors nos chasseurs ont constaté que les bestioles se portaient bien, ouais. L'UICN donc les classe très vulnérables sur sa liste. Ils auraient même déjà tendance, nous dit-on, à pulluler, ce qui met en danger les pointes délicates des fragiles résineux montagnards dont ils se nourrissent. Il convient donc d'intervenir, de réguler en autorisant à nouveau le tir. Et il faut le répéter, contre la disparition des espèces, la chasse est le seul rempart. Oui, elle n'a jamais nui à l'équilibre de la faune, et ce depuis la nuit des temps. Les bouquetins, ours, lynx, loups, aigles royaux, grands tétras, vautours, comme j'en passe, gypaète barbu, tous persécutés, éradiqués du territoire à différentes époques, s'en souviennent, ils lui doivent tout. Alors, or, il se trouve qu'une enquête publique, donc lancée dans les Hautes-Alpes, a révélé que 86% des réponses étaient défavorables à la reprise des tirs. Que sur les centaines de réponses, 714 n'ont pas pu être prises en compte par la préfecture à cause de la difficulté pour certains signataires de repérer et de cliquer au bon moment sur la case idoine de l'écran. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, les autres se fichent un petit peu de cette histoire, ou ne savent pas écrire lagopède ou tétralyre, ou n'ont jamais entendu parler de ces bestioles. Donc, le préfet autorise la reprise des tirs. Mais tout cela va changer. Vous allez voir, on nous l'a dit. Et vous savez, les parades des petits tétras au printemps, les glou-glou-glou-glou énamourés, les envols furtifs de perdrix des neiges ou de gélinottes sous les branches basses des pins valent bien, sans les opposer, les défilés chamarrés des bonnets d'ours noirs des soldats de plomb de la reine. Alors par ces temps d'horreur humaine, tout le monde a besoin de cette beauté vivante. Et au menu ? Eh bien, au menu, donc, je vous l'ai dit, de l'eau. Pas n'importe laquelle. De l'eau en Bretagne avec Thierry Burlot. Eh oui, bien nommé. On va se retrouver avec lui sur les Monts d'Arrée. Et donc, on va essayer de bousculer un petit peu quelques idées sur l'eau. Et qui s'est dit qu'il se trémoussait dans la boîte de nuit de la nature de la playlist de France Inter? Eh ben, c'était les Parcelles. Ce sont des Australiens. Ils n'ont pas pris feu, ceux-là, parce qu'ils habitent à Berlin. Ils enregistrent à Paris. Bref, ce sont des citoyens du monde. On est un peu entre les Beach Boys et les Bee Gees, mais en 2022. De l'eau. On change. Alors là, complètement de registre. On part en Bretagne.
En Bretagne, il y a 30 000 km de cours d'eau et il y a 2700 km de littoraux. Et il y a un lien très, très fort entre l'eau de la terre et la mer. Et finalement, l'eau est à la Bretagne son territoire. De ne pas respecter cette eau, c'est pas respecter son territoire. On a oublié ce qu'était l'eau. Et l'histoire de la goutte d'eau, c'est exceptionnel, puisque la goutte d'eau, c'est un renouvellement permanent. Et on nous ferait croire aujourd'hui qu'il y aurait de l'eau potable, il y aurait de l'eau agricole, il y aurait de l'eau industrielle. Non, l'eau, elle nous appartient à tous. On a tous un devoir de responsabilité. On manque de récits. Il faut qu'on retrouve un récit collectif.
Petite dizaine d'années que je vous ressasse ça en vous disant que l'eau, c'est la star d'aujourd'hui, de demain, avec le trop et le pas assez. Alors Thierry Burlot est président du comité de bassin d'une des 6 agences de l'eau, donc celle de Loire-Bretagne. Et donc c'est le bras, si vous voulez, de l'État pour financer les politiques de l'eau. Un comité de bassin, ça réunit tous les usagers de l'eau, hein, les agriculteurs, les industriels, les particuliers, associations, pêcheurs, Martin pêcheur. Les animaux ne sont pas conviés et parfois donc c'est dommage. Il est aussi le président du Cercle français de l'eau. Alors notre lieu, ce sont les Monts d'Arrée, chez lui, nous sommes dans le Finistère, sur le toit de la Bretagne et son château d'eau, donc tentative d'explication, des pistes pour mieux comprendre sur l'eau avec Thierry Burlot.
Depuis 1964, en France, on a quand même beaucoup progressé sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire apporter l'eau et l'assainissement aux habitations. Et là, il faut bien reconnaître que dans notre pays, les choses ont plutôt bien été réalisées.
Pour les stations d'épuration, voilà. Entre les canalisations, etc.
Voilà, il reste encore beaucoup à faire, mais enfin, disons qu'on n'est pas en retard sur ce sujet-là. Par contre, on a longtemps été confrontés à ces sujets-là, et ensuite, progressivement, dans les années 70-80, on a vu apparaître la question de la qualité de l'eau, qui est devenue une problématique. On a eu, évidemment, on se rappelle, nous, en Bretagne, la question des nitrates. Mais depuis, quand même, on est rattrapé par pas mal de sujets. Les dernières en date, les pesticides. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de plastique dans l'eau. Enfin, ça commence à devenir un sujet majeur, le problème de la qualité de l'eau. Et depuis quelques années maintenant, force est constatée qu'on est rattrapé par un nouveau problème.
Le réchauffement.
Qui, lui, devient très inquiétant. C'est le dérèglement, plutôt que le réchauffement même. Le dérèglement climatique. Et qui impacte directement la ressource en eau, et notamment qui impacte la ressource en eau dans son débit. Et on voit bien qu'il y a un lien très fort aujourd'hui entre la qualité des eaux des rivières et la quantité d'eau disponible. Pour illustrer mon propos, je vous dirais simplement qu'on nous annonce, dans le Massif central, aujourd'hui, dans la plaine de Limagne par exemple, on nous annonce en 2050 moins 30% d'eau disponible, en 2050, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement parce qu'il neige plus sur le Massif central. Alors quand on rajoute à cela que des villes comme Clermont-Ferrand, par exemple, on nous annonce des températures estivales pouvant atteindre 45 degrés en 2050, vous imaginez la tension qu'il y a sur la ressource en eau. Et aujourd'hui, finalement, lorsqu'on a élaboré ce qu'on a appelé le SDAGE, c'est-à-dire l'ambition qu'on se donne pour les 5 années...
On va rappeler le SDAGE.
J'aime bien directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc là, avec l'ambition d'avoir une eau en quantité et en qualité et d'avoir une attention toute particulière sur la préservation de ce bien commun, on se rend compte qu'on est face à des tensions extrêmes et qu'aujourd'hui, on a des territoires qui sont en grosse difficulté sur cette capacité à avoir de l'eau, à disposer d'une eau en quantité et en qualité. Et donc, ça pose la question de l'aménagement du territoire et du développement économique de ces mêmes territoires.
La moyenne française, on est quoi? Un peu moins de 30% de bonne qualité d'eau, si on fait une moyenne française?
Oui, on doit être à peu près à 30%. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la Bretagne, parce qu'il est assez intéressant dans l'explication.
Et puis, on y est là. Ah, voilà.
Voilà. On va dire que la Bretagne est à peu près à 30% de conformité par rapport à ce qu'on appelle la directive cadre européenne de l'eau. Oui. Mais ça masque des différences très importantes, puisque ici, en Finistère, vous avez quasiment 70% des masses d'eau conformes. Et en Ille-et-Vilaine, donc le département voisin quasiment, on tombe à 3% de masse d'eau conforme. Alors vous vous dites, mais pourquoi ? Bah, tout simplement parce que en Ille-et-Vilaine, bon, d'abord il y a plus de pression sur la ressource en eau en Ille-et-Vilaine, parce qu'il y a plus de développement urbain, il y a une densité agricole importante, il y a des usages extrêmement forts, et c'est vrai qu'en Finistère, il y a moins de pression.
Et puis il y a un peu de cochon, il y a un peu de volaille, il y a un peu de tout ça.
Voilà, oui. Mais surtout, en Finistère, la moyenne de pluviométrie dépasse régulièrement les 1m20, 1m30, 1m40,
ouais.
Tandis que dans le bassin rennais, il pleut moins de 600 mm par an.
C'est ça.
Donc vous avez deux fois moins d'eau. Et donc si vous avez deux fois moins d'eau et une pression plus forte, évidemment, ça se ressent sur la qualité de l'eau de nos rivières. Et je vous rappelle que l'eau utilisée en Bretagne provient à 80% des rivières. Donc c'est, quand on parle de l'eau en Bretagne, on parle de l'eau qu'on utilise pour l'alimentation humaine des populations.
Thierry Burlot, donc, c'est bien pour ça que l'eau, pour vous, c'est un projet politique, au sens noble du terme. On en parle très peu, alors que c'est le premier marqueur aujourd'hui de ce dérèglement au réchauffement climatique, comme vous voulez. Et vous vous dites que c'est très gentil de penser au développement de la Bretagne en particulier, mais comme ailleurs, on se dit, bah tiens, on va avoir 400 000 habitants de plus. Bon, tout ceci est vain si on n'a pas une qualité d'eau et une quantité d'eau qui tient la route.
Mais bien sûr. Vous savez, encore une fois, la Bretagne, c'est un très bon exemple, puisque on a un bassin hydrographique autonome. Et je le dis souvent, mais toute l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule en Bretagne,
ouais,
s'infiltre en Bretagne et se jette dans les rivières bretonnes. Donc l'eau, quand elle tombe, elle est de qualité. Si elle arrive sur les littoraux et qu'elle est dégradée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et je dis tout simplement que la qualité de l'eau de nos rivières, elle dépend principalement de l'aménagement de nos territoires et du développement économique de ces territoires. Donc aujourd'hui, la politique de l'eau, c'est surtout pas une politique sectorielle. C'est surtout pas une politique à part. C'est surtout pas une politique environnementale. C'est le fruit d'un développement. Et c'est en cela qu'il faut que les choses changent. Il faut que la politique de l'eau parle à l'ensemble des politiques publiques. Il n'y a que comme ça qu'on va gérer ce bien commun dans la paix sociale.
Attendez, comment elle est votre eau des viands?
Elle est très fraîche.
Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle?
Elle est bien aussi, bien.
Elle est bien. Alors écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Vous savez, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut, en fait, remanier? C'est quand même l'argent aussi qui est le nerf de la guerre. Comment réorienter l'affaire?
Ben je crois, si vous voulez, que pendant trop longtemps, on a laissé penser aux Français que le problème de l'eau, c'était l'eau du robinet, finalement, qu'elle arrivait dans tous les...
Quasiment par magie.
Par magie, dans toutes nos habitations. Et on a pensé que la technique pouvait tout régler. Pouvait régler le prélèvement, pouvait régler le traitement. Et on a fait confiance aussi, et force est de reconnaître aussi qu'on a des grandes sociétés françaises, dont je dirais le nom, mais qui sont des références internationales et, oui, et qui ont beaucoup investi le sujet pour permettre...
Veolia, Suez, La Sorre...
Pour permettre à tout un chacun d'avoir une eau en quantité et en qualité dans son habitation. Et finalement, on a oublié que cette eau du robinet, elle provenait bien de quelque part. Et à force de dire, oui, on l'a traitée, etc., on a même oublié d'où elle venait. Mais cette eau, elle vient tout simplement de notre environnement, c'est-à-dire d'un captage, d'un forage, d'une rivière qu'il convient de préserver. Parce que si cette rivière est polluée, si ce captage ou cette rivière reçoit des déchets industriels, agricoles, des pesticides, etc., eh ben, on retrouvera ça dans notre eau. Et donc, il est absolument nécessaire qu'on se réapproprie le grand cycle de l'eau.
C'est ça, le grand cycle de l'eau, c'est bien celui-là. Le petit cycle, ça concerne donc, on va dire, les tuyaux, les stations d'épuration, c'est-à-dire notre chasse d'eau, enfin, pour faire simple, et nos robinets. Et le grand cycle de l'eau, c'est celui de la nature et de la biodiversité.
Exactement.
Commencer par la pluie qui tombe.
Exactement. Je vais vous prendre un exemple. La Loire. En 40 ans, la température de la Loire en moyenne a augmenté de plus de 3 degrés. Ben, ce qui veut dire que les saumons demain ne pourront plus remonter parce que l'eau sera trop chaude, tout simplement. Donc on est en train de changer la biodiversité dans le cours d'eau. Il y a des espèces de poissons qui vont tout simplement disparaître parce qu'ils ne pourront plus vivre. Alors d'autres apparaîtront, mais n'empêche que ça impacte directement la Loire et son développement et son aménagement.
L'eau de cette rivière, faux folle mais pas farouche, l'eau si fraîche et claire vous met l'eau à la bouche. Là, on peut s'asseoir en l'écoutant jaser, en cascadant sur les pierres usées.
Thierry Burlot, jusqu'à présent, globalement, lorsqu'on achète un produit qui pollue, il coûte moins cher qu'un produit qui ne pollue pas. Bon, en ce qui concerne l'eau, comment ça se passe et que l'on comprenne bien la manière dont on pourrait réorienter les choses?
Écoutez, moi j'aurais une proposition assez simple à faire, parce que bon, tout le monde a bien conscience qu'on ne peut pas continuer à augmenter les taxes, et etc. Bon, on a bien conscience aussi qu'on a de la chance sur la problématique de l'eau, parce qu'on a quand même une redevance dédiée. Elle pèse quand même 2 milliards par an pour le territoire métropolitain, donc c'est pas rien, réservée presque exclusivement à cette politique de l'eau et de bonne gestion de l'eau et de la biodiversité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, plus vous urbanisez une commune, plus vous aménagez une commune, c'est-à-dire vous construisez des routes, des lotissements, vous accueillez une nouvelle population, en gros, plus vous impactez la nature, plus vous avez de taxes. C'est-à-dire que la commune se voit confortée à travers ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, qui est une aide de l'État qui est apportée aux communes, qui se développe et qui tient compte de la population, des industries, etc. etc.
Donc continuons à faire du lotissement.
Donc la limite, plus un maire développe sa commune, plus il a de taxes, plus il a de fiscalité, donc c'est quand même plus ou moins encourageant.
Plus il asphalte, plus il fouille des sols en l'air et mieux ça marche.
Et à l'inverse, vous avez des territoires comme ici, par exemple, dans le centre-Bretagne, là, où on est en plein cœur d'une zone exceptionnelle qu'il faut absolument préserver. Bon, il y a des élus qui se mobilisent pour préserver cette nature, qui créent des espaces remarquables, qui créent des zones Natura 2000, qui créent des parcs naturels. Et tout cela se fait sans aucune compensation. Alors que finalement, on est en train de protéger un bien commun. Un bien commun fondamental, parce que comment bien vivre si notre biodiversité, si notre eau n'est pas de qualité?
C'est pas possible.
Donc moi je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'encourager l'artificialisation comme on le fait aujourd'hui, on devrait aider ceux qui préservent la nature, ceux qui protègent la nature.
Mais ça on le fait pas.
On le fait pas suffisamment. Vous savez, moi, quand je suis au centre-Bretagne, je suis dans le réservoir d'eau de la Bretagne. C'est là qu'on a toutes les têtes de bassin versant. C'est là qu'on a toutes les zones humides. C'est là qu'on a des zones à protéger et à préserver. Pour des usages de l'eau qui vont pas se faire là, puisqu'ils se feront en aval. Et en aval, c'est où? C'est soit dans les métropoles, soit sur le littoral.
Il y a une solidarité à Mont-Aval qui
existe. Si on n'instaure pas, justement, une solidarité à Mont-Aval, pour que les territoires qui engagent des efforts de protection, de préservation, pour les agriculteurs qui engagent des transitions vers plus de protection de la ressource en eau, il faut les aider. Et la manière de les aider, c'est de mettre en place justement des solidarités et des fiscalités qui n'incitent pas à de l'artificialisation ou à du développement, mais au contraire, des mécanismes qui aident ceux qui préservent le bien commun.
Suite de ce reportage, de cette balade au milieu de l'eau avec Thierry Burlot, ce sera dans quelques instants. Ah, tenez, formidable chanteur.
Droit devant moi, je cours les routes en vagabond devant chemin. Je fuis l'amour et ma déroute. Parfois je verse des pleurs sur mes jours anciens. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tibanda, badum badum badouida, tibanda, badum badum badouida, tibanda, payanda, payanda. Lorsque l'orage vient, je goûte la terre qui se change en parfum. Et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon arbre, j'en attends la fin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tibanda, padubanbadouida, tibanda, padubanbadouida, tibanda, payunda, payunda. Quand un obstacle me déroute, je le contourne et ce matin, c'est l'océan qui barre ma route. Tant pis, je vais le sauter pour aller plus loin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade.
Et ce n'est que Pierre Barou, un homme qui habitait les Deux-Sèvres, non loin de ces fameuses bassines de la Discorde qui pompent de l'eau, ce bien commun, dans les nappes phréatiques.
À la gare, un piqué.
Pour les tomates espagnoles. Plutôt pas mauvaise, hein?
Il est bon, mon clafoutis.
Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
CO2, mon amour.
Mais il y a tout ici, il y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, je n'ai jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Sur France Inter.
Vive la Révolution!
Vive la Révolution!
La Révolution!
Vive la Révolution!
Et vive aussi les Monts d'Arrée, nous y sommes, si je vous dis le roc Trévézel, le roc Trébudon, le Tuchène, Cador, on est dans le royaume de Landes et de Tourbières, avec le Yonnelaise qui est derrière, les portes de l'enfer. On est donc sur l'échine d'une Bretagne rugueuse, grégiste, stratifiée, plissée, qui défie les vents de Norrois, donc pas loin de 400 mètres, on n'y est pas, donc au sommet, et parlons-en donc aussi de ces Monts d'Arrée, de cette eau qui coule, avec Anthony Le Gall, qui est guide nature de la Maison de la Rivière à Cizun.
Voilà, en fait ici la lande est mixée de la tourbière.
Ouais.
On va appeler ce paysage le paysage de lande et tourbière. Donc la lande, c'est plutôt une partie dite sèche, et la tourbière, ce sera la partie dite humide. Donc cette tourbière, évidemment, regorge d'eau l'hiver,
ouais,
puisque c'est directement lié à la pluviométrie.
Il y a aussi des végétaux, il faut vraiment se baisser et s'accroupir pour les observer, ce sont les sphaignes. J'en parle parce que avec la formation des tourbières, on a les sphaignes qui doivent pousser à peu près de 2 mm par an, grand maximum.
Et on dit que c'est 5 cm sur un siècle.
Voilà.
Alors
c'est la décomposition, voilà. C'est ça au fur et à mesure, et c'est entre autres ça, ces végétaux qui fabriquent de la tourbière.
C'est bien ça, voilà. La tourbière, c'est la décomposition de tout ce qui peuple les tourbières finalement au fil des siècles. Et donc, on a des tourbières plus profondes que d'autres. On a des tourbières qui peuvent atteindre 400 mètres. C'est aussi pour ça qu'on appelait ça parfois les portes de l'enfer, puisque quand des gens s'aventuraient dans des zones où on extrayait la tourbière,
ouais,
on pouvait avoir des mauvaises surprises, puisqu'on pouvait se noyer dans les trous où avait été extrait la tourbière l'été.
Ouais.
C'est-à-dire que l'été, tout s'assèche, il y a beaucoup moins d'eau, donc on extrait. Et l'hiver, en fait, ces trous d'eau, en fait, se remplissent avec la pluie. Donc les gens, en plus, les populations locales qui marchaient qu'en sabots et qui ne savaient pas nager, on ne savait pas nager autrefois dans les terres, et c'est des gens disparaissaient dans les tourbières, ils allaient faire une course et on les retrouvait jamais. Alors le problème, c'est évidemment ici aux sources, on a mis un périmètre de protection, donc qui appartient à la collectivité. C'est aussi propriété donc du Conseil Général. Et donc en achetant ces terres, ils ont mis un périmètre de protection autour de ces sources. Ici devant nous, on voit un champ qui a été donc mis aussi dans le périmètre de protection, puisqu'avant c'était un champ cultivé. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire du foin. Et on a devant nous l'herbe fauchée, justement.
Donc il y avait du maïs ou du blé, maintenant ça a été transformé en herbe.
Aujourd'hui, c'est retour à l'herbe. Donc c'est retour à l'herbe, c'est ce qu'on prône un petit peu dans toutes les zones, on va dire, à risque, là où il y a des fuites de nitrates, évidemment.
Ouais.
Puisque le système herbager, on sait qu'il assimile beaucoup les nitrates. ça protège la zone à partir du moment où il y a de l'herbe. Donc c'est le retour à l'herbe qui est prôné ici dans le parc naturel Jeanne d'Armorique depuis maintenant 40 ans.
Et en fait, dès qu'on descend, le taux de nitrate commence à monter.
Et malheureusement, dès qu'on descend, dès qu'on abandonne cet espace naturel, donc sans, non impacté par l'homme, ouais. Et ben on arrive très vite à des taux de nitrate qui dépassent même les taux légaux imposés par l'Europe.
Alors, problème de la qualité de l'eau, on s'en doute bien, parce que donc c'était l'Orne qui coule à nos pieds, va alimenter tout le bassin de Brest. Et alors, le paradoxe, c'est qu'ici, vous avez de l'eau et vous avez eu une des eaux les plus chères d'Europe à payer.
Enfin, la Bretagne, ouais, et surtout la pointe bretonne, le Finistère. Ah ouais. Pour un habitant de Brest, le prix est proche de 4 euros le mètre cube d'eau. Donc, c'est l'eau la plus chère d'Europe, effectivement. Alors que l'eau ne manque pas en Bretagne. Quoi.
Qu'est-ce que l'on peut faire? Ce système, on le connaît. On a une PAC qui est productiviste. On a la FNSEA qui ne veut surtout pas changer de modèle. Les politiques, à la fois, donnent des subventions à la pollution, donnent aussi des subventions pour dépolluer. Ce système est dingue et ne tient pas.
On peut changer et faire évoluer très vite les pratiques, puisqu'on a, comme on fait actuellement, ça s'est passé sur 30 ans. Donc ça a été très vite. Et on sait très bien qu'en 10 ans, on peut aller très vite dans l'autre sens pour faire une agriculture propre et écologique. Moi, je crois aussi que chaque agriculteur peut, tout à chacun, se dire que on peut être décisionnaire dans nos actes sans écouter aussi la bonne parole d'un politique. Alors là, c'est ce qui se passe d'ailleurs ici dans les Monts d'Arrée. Les gens qui se sont lancés dans un autre système n'ont pas attendu que les politiques leur disent de se lancer dans un autre système pour qu'ils se lancent dans ce système herbager par exemple. Quoi. Mmh. Donc les moutons qui viennent ici sur les Monts d'Arrée, donc il y a des transhumances qui sont faites chaque été.
C'est ce qu'on voit là. Enfin, là, voilà. C'est pas la transhumance,
moutons,
bah,
sont juste, ils sont là. Ils sont là devant nous, les moutons. Ouais. Et donc, voilà, près des roches, là, comment est-ce que. Bah, c'est très, très joli. On voit les moutons se déplacer dans la lande. Et donc, ces moutons-là, on sait qu'ils vont avoir aucun impact sur l'environnement. Ce sont souvent des agriculteurs qui étaient dans le modèle conventionnel, qui en sont sortis parce qu'ils ne s'en sortaient pas économiquement. Mm-hmm. Donc, ils ont décidé de devenir, en fait, économiquement rentables, dans une logique de développement durable, justement.
On n'était pas loin de l'Élorne avec donc Anthony Le Gall, donc évidemment sur la naissance, sur cette zone donc des Monts d'Arrée. Alors on le rappelle, la Bretagne c'est 3 400 000 habitants et qui nourrit 25 millions d'habitants. Le budget de la région Bretagne, 1,7 milliard. La PAC en Bretagne, 600 millions. La politique de l'eau, 8 millions par an. Donc bonne chance, c'est pas très simple. Alors on a un bon système hein, par bassin versant. Ça c'est donc français, c'est pas de la découpe administrative parce que la flotte se fiche un tout petit peu de ces découpes. Elle coulera où bon lui semble et non en fonction de ce que pense un énarque. Alors organisation complexe, oui, on continue donc ce voyage avec Thierry Burlot.
Les pesticides, aujourd'hui, on est confronté à un sujet qui s'appelle les métabolites des pesticides, c'est-à-dire des résidus de pesticides qu'on trouve dans les eaux. Parfois, des pesticides qu'on a utilisés il y a 10, 20, 30 ans. Donc vous imaginez la forte rémanence de ces produits. Mais c'est des produits hyper toxiques. Vous vous rendez compte si on en a dans l'eau? C'est de l'eau, je vous rappelle que l'eau du robinet, près des trois quarts des Français, c'est l'eau qu'ils consomment tous les jours.
D'où le succès de l'eau minérale, d'ailleurs, en bouteille plastique.
Donc faisons très attention quand même. Hein. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est pas pour dire qu'on est contre un modèle agricole, c'est de dire que c'est pas acceptable de trouver des pesticides dans l'eau, ni dans l'air, d'ailleurs. Donc, il faut changer les pratiques. Et sans doute que le modèle intensif a montré ses limites, notamment sur la question environnementale, il a montré ses limites. Et alors, je vous parle pas de biodiversité, hein. C'est le même sujet, mais encore une fois, je pense qu'on a aujourd'hui à disposition des modèles moins intensifs qui prennent plus en compte les questions territoriales.
Comment fait-on demain, puisqu'on a spécialisé donc les territoires après-guerre? On le sait ici, c'est-à-dire qu'ici, on a mis du cochon, on a mis de la volaille, on a mis des bovins, on a mis la paille dans l'Île-de-France, on l'a mis dans le centre de la France, etc. Comment fait-on?
On a encouragé les agriculteurs à faire comme ça. Et d'ailleurs, je précise que le revenu des agriculteurs, il était aussi basé sur plus je produis, plus je gagnerai. C'était ce qui a dicté finalement le revenu des agriculteurs pendant de nombreuses années. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est plus un tabou. Chacun sait bien qu'il faudra sans doute baisser un peu la capacité de production de la Bretagne. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'élevages qui disparaissent pour des raisons parfois très difficile. Moi, je crois que ce qu'on a besoin, c'est de paysans heureux. Et vous savez, si le revenu...
Et d'animaux heureux aussi, hein, voilà. Au passage, parce que souffrance animale,
c'est
pas
mal. Si le revenu des agriculteurs demain prend en compte la question environnementale et est capable de rémunérer la question environnementale, ça changera tout.
Parce que vous savez, l'agriculteur, lui, ce qu'il veut, c'est faire son boulot, oui, faire son métier dans de bonnes conditions, être fier de le faire, être reconnu par la population. Et malheureusement, aujourd'hui, la question environnementale, elle est mal vécue par la profession qui se sont accusés, et je crois que ça ne peut pas durer.
Le Forum mondial de l'eau ouvre ses portes pour une semaine à Dakar, un rendez-vous important. C'est la première fois qu'il se tient en Afrique subsaharienne, selon les Nations Unies. Seul un Africain sur quatre a accès à l'eau potable et les centres urbains ne sont pas épargnés. Exemple, à Dakar, malgré les efforts pour satisfaire la forte demande des 4 millions d'habitants de la capitale sénégalaise, beaucoup de Dakarois peinent à y accéder.
Dakar connaît une urbanisation galopante. Sa demande d'eau potable n'est pas entièrement satisfaite. Cet activiste est à la tête d'une plateforme digitale de défense des consommateurs. Il reçoit régulièrement des plaintes de Dakarois privés du liquide précieux.
Une capitale comme Dakar, on ne peut pas comprendre qu'en 2022, qu'on puisse être là à parler de problèmes d'eau.
Là, vous pouvez aussi faire un parallèle, parce que vous avez donc vécu, vous, le Forum mondial de l'eau donc, qui a lieu à Dakar.
Ah bah oui, et puis c'était une très belle manifestation organisée donc sur le thème de l'eau. Et alors le titre était intéressant, c'était « Forum de l'eau pour la paix ». Vous savez, on a beaucoup de fleuves africains qui sont interfrontaliers, comme on dit, hein, ouais. Qui traversent plusieurs pays. Et je pense notamment au fleuve Sénégal.
Et même d'ailleurs dans le monde, hein, vous en avez 2 sur 3 des grands fleuves qui sont transfrontaliers.
Bien sûr, et parfois des pays qui sont en guerre. Ben, vous savez, la guerre de l'eau, elle peut avoir lieu. Parce qu'encore une fois, celui qui a l'eau a le développement. Donc aujourd'hui, penser une politique de l'eau, c'est penser à la paix. Parce que ça ne peut se faire que dans la paix sociale. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on prenne conscience que ce bien commun, il est menacé. Et je pense que ça peut être un très beau sujet qui cimente une vie politique. Moi, tout gamin... Les problèmes d'eau, c'était dans le sud, les pays du sud. Et on se rend compte aujourd'hui, ben non, c'est chez nous. Et je pense qu'il faut qu'on mesure cette chance que l'on a encore de disposer d'une eau en quantité. Et dans ce département ici, en Bretagne ou dans cette région ici, où pourtant on est plutôt bien gâté, puisqu'il pleut quand même quasiment plus d'un mètre partout en Bretagne, en moyenne, eh ben on se rend compte qu'il y a certains départements, comme l'Ille-et-Vilaine par exemple, qui seront en tension. Et aujourd'hui, on n'est pas loin des coupeurs d'eau, par exemple, dans une région touristique comme Saint-Malo, parce qu'on n'a plus d'eau. Donc aujourd'hui, il va falloir économiser ce bien commun, il va falloir mieux le gérer, et surtout le préserver. Vous savez, le préfet, il y a un préfet voisin, le préfet des Côtes d'Armor, là, qui a décidé d'interdire l'urbanisation dans certaines communes, parce que les stations d'épuration n'étaient pas aux normes.
Ah,
et j'ai salué cette décision, parce que pour une fois, une décision cohérente. Comment peut-on imaginer de construire des habitations si on n'a pas les capacités épuratoires? C'est quand même du bon sens. Et bien, on a un préfet qui l'a fait.
On va redescendre, tel les lords. On ne va peut-être pas aller aussi vite que ce fleuve côtier. Que peut-on vous souhaiter, Thierry Burlot?
Ben, vous savez, les fleuves nous rendent tout ce qu'on leur donne. À nous de leur donner du bien.
À bientôt, Thierry Burlot.
Merci, mon cher Denis.
Tentative de réflexion envoyée, bien sûr, au fil de l'eau. Merci à Thierry Burlot. Merci aussi à Xavier Pessugia, donc, qui a réalisé ce reportage. Et puis, la semaine prochaine, ça va être très différent. Je vous emmènerai au pays des chauves-souris, dans ces hauts de mon amour forestière. Nous allons volter la nuit avec Laurent Tillon. Nous serons en forêt de Rambouillet pour donc découvrir cet animal. Anne Gouzon a nourri les sites de CO de Mon Amour. Thierry Dupin a choisi les disques. Merci à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé cette émission. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche. À très bientôt.